Vous écoutez
RMC. Face à face.
Benjamin Duhamel.
Tout juste 8h37 sur RMC et BFM TV. Mon invité ce matin, c'est la députée écologiste de Paris, Sandrine Rousseau. Bonjour Sandrine Rousseau.
Bonjour.
Alors d'abord, l'information de la matinée, c'est ce drame à Nîmes. Un enfant de 10 ans tué dans une fusillade cette nuit dans ce qui apparaît comme un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Ce quartier de Nîmes avait déjà été touché. Après, Marseille, l'hécatombe continue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête, Sandrine Rousseau?
Il y a beaucoup de choses à faire, et notamment le fait d'enquêter sur les trafiquants. Ça n'est pas sans doute fait à la hauteur où ça devrait l'être, puisque manifestement ça continue, et que par ailleurs il y a aussi quelque chose autour de la politique de la drogue à mener, c'est-à-dire qu'on voit toujours la politique anti-drogue comme une politique de répression, alors qu'on doit le voir aussi comme une politique de santé publique, de sorte que d'assécher ce trafic et d'assécher la consommation de ce trafic, ce qui aujourd'hui n'est pas fait. Je rappelle qu'il y a des pays qui ont travaillé là-dessus.
Vous considérez que la lutte contre le trafic de drogue n'est pas suffisante de la part du gouvernement? Gérald Darmanin, il y a un instant sur Twitter, parlait d'un immense drame qui ne resterait pas impuni. Vous considérez quoi? Il y a une forme de mollesse face au trafic de drogue?
Je pense qu'on va beaucoup vers ceux qui tiennent les portes, ceux qui tiennent les spots, mais on ne va pas assez vers les trafiquants internationaux, vers le trafic international. Et là, aujourd'hui, il y a quelque chose notamment à faire du côté du cannabis.
Si on dépénalise, il ne se passera plus ce genre de drame.
On enlève une partie des financements de ce type de trafic.
Et les spécialistes disent qu'on déporte sur d'autres types de drogue, on dépénalise seulement le cannabis.
Quand il y avait l'interdiction de l'alcool aux États-Unis, la prohibition, c'est le moment où les mafias ont été le plus alimentées. Donc maintenant, il faut revoir la politique de la drogue comme une politique de santé publique pour arrêter d'alimenter ce trafic et faire en sorte qu'on ne donne pas la possibilité aux trafiquants de gagner bien plus avec ce trafic de drogue qu'on ne le gagne autrement.
Rapidement sur ce sujet, Gérald Darmanin va envoyer la CRS-8 à Nîmes, qui était à Marseille. Est-ce que c'est une bonne chose?
Ça, c'est typiquement le coup de force, c'est-à-dire qu'on va envoyer la CRS-8. Il n'y a plus de police de proximité, il n'y a plus de policiers qui sont au plus près du terrain.
Vous vous mettez à la place des habitants de Nîmes qui voient un jeune homme de 10 ans qui est tué cette nuit. Vous leur dites, envoyez la CRS-8 pour essayer de ramener l'ordre, c'est un coup de force.
Mais bien sûr que si, on va faire un coup de force, un énième coup de force, on va amener les CRS comme on le fait à Marseille. À Marseille, il y a des morts en permanence, on sait même pas de ces morts-là, ils passent presque dans le quotidien. Quand est-ce qu'on revoit, en fait, la question de la gestion du trafic de drogue? Quand est-ce qu'on revoit la gestion de la sécurité? Ça n'est pas en faisant venir des compagnies de CRS qu'on gère le trafic de drogue. Mais on peut l'envoyer une fois. La question, c'est la police de proximité. Quand est-ce qu'on l'a, la police de proximité? Il n'y a pas un mot de Gérald Darmanin là-dessus. Et maintenant, je voudrais juste avoir une pensée vraiment sincère pour la famille et les proches de cet enfant et dire que c'est un drame inadmissible.
Évidemment. Sandrine Rousseau, la canicule continue de s'étendre avec 4 départements classés vigilance rouge aujourd'hui, des températures qui dépassent 40 degrés. Vous avez raillé le numéro vert activé par le gouvernement, vous n'êtes pas la seule. Mais à court terme, qu'est-ce que vous avez mieux à proposer?
Mais on ne peut pas se contenter de s'adapter. C'est-à-dire que là, on a eu Christophe Béchu qui a fait un plan d'adaptation. Mais on a eu des rapports. Oui, on a eu des rapports qui montrent, notamment celui de Pisani-Ferry et de Mahfouz, de Selma Mahfouz, qui montrent que l'on doit mettre tout l'argent possible pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ce réchauffement climatique.
C'est ça que je disais bien, à court terme, il y a les sujets, vous avez raison, d'investissement, de lutte contre le réchauffement climatique. Là, la vague de chaleur est là. Qu'est-ce que vous feriez différemment?
Non mais la vague de chaleur, elle ne se gère pas en 24 heures. On avait des amendements pour isoler les bâtiments, par exemple. Des amendements dans le précédent PLF, donc dans le projet de loi de finances. On avait 9 milliards pour isoler les bâtiments. Ça aurait permis que les bâtiments restent frais cet été, par exemple. Ces 9 milliards n'ont pas été acceptés dans le 49.3 par le gouvernement au motif qu'il n'y avait pas les artisans pour construire et pour réhabiliter ces logements. Est-ce qu'il y a eu un plan de formation de ces artisans? Non, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de plan d'urgence. En fait, moi j'ai l'impression que, parce que j'entends le ministre de la Santé qui dit qu'il va falloir s'habituer maintenant à vivre avec des canicules, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va multiplier les climatiseurs et que ça va accroître le problème, c'est ça le sujet en fait.
Vous me faites la transition, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'achats de climatiseurs. Je crois qu'un ménage français sur quatre a un climatiseur chez lui. Est-ce qu'il faut interdire ou réguler la vente de ces climatiseurs qui, il faut le dire, polluent?
Il faut réhabiliter les logements, il faut rénover massivement, il faut faire des plans végétation. Mais non, mais on ne peut pas développer
les. Est-ce que c'est un problème, les Français qui vont acheter des climatiseurs?
Mais évidemment qu'on ne peut pas développer les climatiseurs et que ça ne peut pas être la solution puisque ça fait partie du problème. C'est tout cela qu'il nous faut.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Est-ce qu'il faut les
isoler les bâtiments, il faut mettre de la végétation sur les bâtiments, il faut revégétaliser les villes, il faut faire en sorte qu'on mette des ventilateurs.
Par exemple,
on peut mettre des ventilateurs avec des bouteilles d'eau congelée devant, ce qui permet quand même de... Oui, c'est moins efficace, mais c'est plus efficace sur la lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui,
les personnes âgées qui, par exemple, chez elles, ont des climatiseurs parce qu'elles ne peuvent pas supporter la chaleur, est-ce que vous leur dites « c'est pas bien, il faut s'en passer » ou...
Je dis, on a d'autres solutions que le climatiseur. On ne peut pas développer aujourd'hui les climatiseurs. Et voyez, la manière dont vous posez la question, c'est que vous ne mesurez pas l'effet qu'ont les climatiseurs sur le climat.
Je l'ai dit tout de suite.
Nous ne pouvons pas.
Je l'ai dit tout de suite, mais simplement, les Français qui nous écoutent, pour certains, ont autour d'eux des gens fragiles, des gens qui ne pourraient pas supporter d'être dans une pièce sans climatisation.
Bien sûr, et c'est pour ça qu'on doit avoir un plan stratégique d'isolation des bâtiments, qu'on doit avoir un plan stratégique de végétalisation des villes, ce que font d'ailleurs les maires écologistes dans leur ville. On doit aussi, par exemple, peindre les toits en blanc, ce qui permet de limiter la température à l'intérieur. Tout cela n'est pas fait. Le climatiseur n'est jamais la solution, puisque ça accroît le problème. Et je dis juste que dans les zones là où il y a le plus de pics de chaleur actuellement, les arbres vont être plus fragiles aux maladies, aux parasites dans les mois qui vont venir. Or, les arbres sont des climatiseurs naturels. Donc, comment fait-on pour arrêter ce phénomène? Et là, cet emballement du réchauffement climatique que l'on voit depuis maintenant plusieurs années, mais là qui prend un tour incroyable ces derniers mois, ça n'est certainement pas en prenant l'avion et en achetant des climatiseurs qu'on va résoudre le problème.
Sandrine Rousseau, la polémique Médine continue. Hier, les deux maires écologistes de Strasbourg et de Bordeaux ont annoncé qu'ils ne se rendraient pas aux universités de rentrée en raison du maintien de la présence du rappeur accusé d'antisémitisme. Est-ce qu'ils ont raison? Et si oui, est-ce que vous ferez la même chose en ne vous y rendant pas?
J'irai aux journées d'été, déjà parce qu'il y a énormément de militants qui se mobilisent pour que ça s'organise, que c'est des lieux de débat très importants, que c'est un lieu de rencontre aussi avec des militants qu'on n'a pas et des militantes qu'on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer. Maintenant, je me suis déjà exprimée sur le fait que
la maire de Strasbourg et le maire de Bordeaux disent, nous, si Médine est là, compte tenu de la nécessité de lutter contre l'antisémitisme, on ne s'y rendra pas. Est-ce que vous considérez que c'est la bonne position?
Non, puisque moi j'y vais. Moi, j'y vais.
Donc, qu'est-ce que vous leur dites?
J'y vais et je vais débattre. Et je dis que oui, le tweet qu'a fait Médine est antisémite et que ça, on ne peut pas le nier. Et qu'on a un problème de flou autour de cette notion d'antisémitisme, puisque manifestement, une partie des personnes ne considèrent pas que c'est antisémite. Moi, je suis désolée, mais faire référence à
Oui, parce qu'on parle de Rachel Kahn, une essayiste dont les grands-parents ont été déportés. Le tweet disait « Res Kahn P ».
Voilà, on ne peut pas renvoyer les gens à ce qu'ont vécu leurs grands-parents, à une religion.
Vous dites le tweet est antisémite. Est-ce que vous diriez que Médine, lui, est antisémite?
Eh bien, c'est ça qu'il va falloir tester pendant les journées d'été. Et c'est ça qu'il faut travailler avec lui. Moi, je vais vous dire, s'il y avait eu des propos de cette nature sur les violences faites aux femmes, où il aurait plaisanté sur les violences faites aux femmes, j'aurais été et la première à dire que c'était inadmissible et ensuite à enclencher le dialogue comme je le fais chaque fois.
Pardon, mais Sandrine Rousseau, c'est là où votre position, est assez intenable. Vous dites, je reconnais que le tweet de Médine était antisémite. Vous dites même, vous allez plus loin, vous dites, la condition pour qu'il vienne au Havre, c'est qu'il reconnaisse que c'est un délit ou à minima une faute. Il n'a fait ni l'un ni l'autre, il s'est simplement excusé.
Eh bien, je vais
lui
demander de le dire.
Donc pourquoi est-ce que vous n'en tirez pas la conclusion, soit en demandant à ce que sa venue soit annulée, soit en y allant passer, vous dites... Oui, oui, c'est un tweet antisémite, mais pas de problème, je continue à aller au Havre. C'est assez incompréhensible
Havre,
comme position.
Il y a quand même des centaines de militants qui sont là-bas. Enfin, je veux dire,
Que certains de vos collègues
Après,
disent.
Aller au débat sur Médine, ça, c'est encore autre chose. Et je vais lui poser la question de savoir s'il a compris ce qu'il avait fait. Je vais poser cette question. Et soit on est dans une situation
avec quelqu'un qui fait un tweet antisémite.
On est dans une situation où on ne permet pas aux gens d'évoluer. Et dans ces cas-là, on les enferme dans une position. Soit on leur permet d'évoluer.
Mais
sur l'homophobie,
Rousseau,
il a évolué. Je voudrais qu'il évolue sur la question antisémite.
La question de l'antisémitisme ne se débat pas. on ne débat pas
de l'homophobie.
Si vous considérez qu'un tweet est antisémite, on ne débat pas avec une personne qui tient des propos antisémites.
Elle s'est excusée, cette personne s'est excusée de ce tweet. J'estime que c'est un premier pas. Maintenant, il faut travailler avec lui pour que. Savoir s'il a compris le caractère antisémite de ce tweet. Voilà, c'est ce qu'il n'a pas dit aujourd'hui. Et je pense qu'il y a quelque chose à poser de l'ordre d'une parole très claire sur le fait que ce tweet est antisémite. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Comme,
et vous y allez quand même.
Donc mais je vais aux journées d'été. Mais je vais aux journées d'été.
Et vous allez au débat entre Médine et Marine Tondelier.
Mais je ne sais pas si je vais aller au débat entre Médine et
vous allez
Marine
au A, mais par contre, vous n'allez pas au débat.
J'ai le droit d'aller dans mon parti politique encore ou pas?
Mais attendez, vous voyez bien que des responsables, Sandrine Rousseau, je vous pose la question parce que des responsables écologistes, eux, font le choix en responsabilité de dire, compte tenu de la présence de ce rappeur et des propos qu'il a tenus, nous n'irons pas. C'est pour ça que je vous pose la question.
Oui, il y en a plein qui y vont aussi. Et moi, je respecte les militants qui organisent ces journées d'été. Ça fait 3 semaines qu'on est dans cette polémique. J'ai été parmi les premières à poser le fait que ce tweet était antisémite avec ces mots-là.
C'est
donc
vrai.
Voilà, je suis très claire. Il n'y a pas de doute, ce tweet est antisémite. Maintenant, comment on fait en sorte pour que les gens qui ont des propos comme ça puissent comprendre ce qu'ils ont fait et comprendre que c'est une discrimination, que l'antisémitisme n'est pas à minimiser et que particulièrement quand on se revendique d'un combat contre l'extrême droite, sachant qu'une partie des racines de l'extrême droite vient de cet antisémitisme, on ne peut pas combattre l'extrême droite en ayant la moindre faiblesse sur l'antisémitisme.
Il y a à gauche une forme de faiblesse, de complaisance avec l'antisémitisme ou de faiblesse dans la lutte contre l'antisémitisme.
Ce tweet, en tous les cas, montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris de l'antisémitisme. Et là, on a besoin absolument de Médine. Moi, je ne suis pas la porte-parole de Médine, mais de la part de Médine, il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Donc là, il y a quelque chose sur lequel il faut absolument qu'on travaille, parce que l'antisémitisme est une discrimination.
Je m'arrête un instant sur un de vos arguments. Vous dites, au fond, s'il reconnaît que c'était antisémite, c'est bon, il est absous, tout va bien, on peut parler avec lui.
Non, mais
c'est quand même assez singulier comme argument.
Non, mais là, vous êtes de mauvaise foi. Est-ce que j'absous qui que ce soit des discriminations?
Vous dites, il faut qu'il reconnaisse le délit.
Une bataille culturelle pour faire en sorte que nous allions vers une société d'égalité. Contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'homophobie, contre les handiphobies et contre le sexisme. Je me bats sur ça non-stop. Je me bats y compris quand c'est dans mon propre camp. Je pose les mots quand il faut les poser.
Rousseau,
je n'absous personne. Je dis juste que tout le monde aussi a le droit à évoluer sur ses positions.
Sandrine Rousseau, vous posez les mots, mais avant même le tweet sur Rachel Kahn, il y avait les quenelles, il y avait une sorte de proximité ou d'ambiguïté quant à sa relation avec Tariq Ramadan, avec Dieudonné. Tout ça existait. Et pourtant, vous disiez, à l'époque, c'était des buts de vouloir connaître son parcours. On a envie de connaître le parcours de quelqu'un qui fait des quenelles, qui entretient une forme de relation ambiguë avec Tariq Ramadan, avec Dieudonné.
Non, mais moi, je n'ai pas de tolérance pour ça. Je dis juste, on doit débattre.
Donc là, on débat avec ce type de personne.
Là, en l'occurrence, le tweet qu'il a fait changeait la donne. Je pense que nous aurions pu réfléchir au fait qu'il ne vienne pas. Maintenant, il est invité.
Vous, patronne de parti, vous l'auriez invité.
Moi, je pense que j'aurais réfléchi au fait qu'il ne vienne pas. Maintenant, il est invité. Il faut aller jusqu'au bout de cette réflexion. Voilà.
Vous me dites.
Et je vous dis juste.
C'est pas l'idée du siècle.
Je vous dis juste. Je pose le mot et je le pose sans complaisance, et vraiment parce que c'est très important que nous allions vers une société apaisée. Aucune discrimination n'est acceptable, toute discrimination est un délit. L'antisémitisme, comme le racisme, comme l'homophobie, comme le sexisme, comme toutes les discriminations qui existent. Donc maintenant, une fois qu'on a posé ça, alors on passe à autre chose qui est comment fait-on évoluer notre société vers moins de ces discriminations.
On vous entend, mais encore un mot là-dessus, parce qu'il est invité certes aux universités de rentrée des écologistes, mais aussi à la France Insoumise. Et là, pour le coup, on est droit dans ses bottes, hein, on récuse le moindre problème. Jean-Luc Mélenchon a même tweeté que Médine n'était pas raciste et que vous étiez soumis, vous tous, hein, au, je cite, « Qu'en dira-t-on des hypocrites ?»
Oui, c'est les propos de Jean-Luc Mélenchon et ça lui appartient. Moi, je ne partage pas ça. Et vraiment, je le dis parce que je suis dans une lutte contre les discriminations, y compris quand c'est dans mon propre camp. Mais voyez, le temps que tout cela nous fait perdre par rapport à une urgence, et on le voit, on a 4 départements en vigilance rouge, c'est la canicule, on a un gouvernement qui est complètement absent face au dérèglement climatique, le budget qu'il nous annonce est un budget qui n'est absolument pas à la hauteur de l'enjeu et de la situation, et là on est là, on se perd dans ces polémiques-là. Permettez que je sois triste de cela, et permettez aussi que je n'ai aucune complaisance vis-à-vis d'aucune des discriminations.
Un mot, Sandrine Rousseau, sur la NUPES, qui n'a jamais paru aussi fragilisée, on le voit aussi sur les désaccords concernant l'avenue de Médine, entre les invectives sur Twitter, entre les dirigeants de gauche, l'absence d'union aux prochaines élections, c'est fini la NUPES ?
Eh bien, écoutez, j'espère que non, et j'espère qu'on fondera la NUPES sur à la fois un programme et sur une perspective d'avenir, parce que là, les gens de gauche, de l'écologie, ont besoin d'avoir une perspective de changement de leur vie quotidienne, mais aussi de leur avenir. Ce qui s'annonce aujourd'hui sur le plan du climat, comme sur le plan de la crise sociale, est dramatique. Nous ne pouvons pas laisser les électeurs face à une division.
Sur la NUPES, on a le sentiment que vous ne pouvez plus vous supporter, Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon,
moi,
qui sont incapables de se parler hors Twitter. Marine Tondelier qui parle de brut, il faut que la brutalisation cesse. Est-ce que vous pouvez encore coexister dans cette alliance ?
Non seulement on peut coexister, mais on peut construire ensemble. Et
ce ne sont pas des petites phrases
qui font l'alliance. On est dans un moment de bascule politique. On a une responsabilité inouïe, historique. Rarement, même jamais, je pense, les partis de gauche ont eu une responsabilité de cette ampleur-là. Si nous nous enfermons dans des petites phrases, alors nous ne sommes pas à la hauteur de nos responsabilités. C'est pour cela que je pense que la NUPES est une des solutions, qu'il faut la faire évoluer, qu'il faut faire évoluer son fonctionnement, sa gouvernance, que tout
Jean-Luc Mélenchon est un
tout
problème.
Est à mettre
Est-ce
sur
qu'il
la
met
table.
De l'huile sur le feu concernant ce qui se passe au sein de la NUPES.
Mais tout le monde met de l'huile sur le feu là, et tous les chefs de parti mettent de l'huile sur le feu. Donc maintenant, on se calme.
Même la vôtre.
Mais bien sûr, tous les chefs de parti mettent de l'huile sur le feu. Maintenant, on se calme et on travaille pour les gens, pas pour nous, pour les gens. Et les gens en ont besoin.
Merci beaucoup, Sandrine Rousseau. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.